Pour retrouver l'ensemble des titres que nous venons d'écouter, allez sur la page Facebook de l'émission L'Odyssée.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission d'information quotidienne, le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Nous sommes le mardi 8 novembre, journée quasi estivale à Victoria. On a présentement 19 degrés au centre-ville. C'est Alexis Gagnon au micro en votre compagnie jusqu'à 17h. On laisse tout de suite la voie libre à notre collaborateur Denis Lépine qui nous fait la lecture de ses bulletins d'information quotidien. Je vous retrouverai dans quelques minutes avec la météo détaillée. Ce sera suivi par le bulletin d'actualité des Nations Unies et par les nouvelles provinciales, entre autres informations. En interview, plus tard dans l'émission, j'aborde un sujet culturel et plus particulièrement littéraire avec l'artiste Nathalie Leduc, une résidente de Victoria, une habituée de l'émission Le Débrief, qui va chroniquer aujourd'hui sur un livre culte intitulé Even Cowgirls Get the Blues de l'auteur américain Tom Robbins. Restez à l'écoute, cette interview sera diffusée vers 16h40. Bonne émission à tous. La production du Débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Les membres du syndicat Unifor ont ratifié un contrat de 4 ans avec Ford. La ratification promet notamment des investissements de plus de 700 millions de dollars. Il y aura deux augmentations salariales générales de 2% chacune sur la durée du contrat. Le nouveau contrat de travail permet aussi des améliorations des pratiques de travail des opérations et des usines. Jerry Diaz, président d'Unifor, a dit que le syndicat a solidifié son empreinte dans l'avenir de l'automobile au Canada et rien de cela n'aurait été possible sans la volonté, selon lui, du syndicat de défendre ses principes et de le faire tous ensemble. 5 équipes ont été retenues pour la phase finale de sélection pour la construction du monument aux victimes du communisme « Le Canada, une terre d'accueil ». Mélanie Joly, ministre du patrimoine canadien, a donné le coup d'envoi à la prochaine étape du concours de design. Le monument doit être érigé dans la région de la capitale fédérale. Les membres des équipes choisies viennent de Vancouver, Hamilton, Toronto, Markham, Philadelphie, Washington et même Londres. Les équipes doivent présenter leurs propositions d'ici le 2 mars 2017. Le processus des consultations sur le contenu canadien dans un monde numérique vient de prendre fin. Patrimoine canadien a indiqué dans une dépêche que l'évolution rapide des technologies change la façon dont les Canadiens produisent et consomment le contenu culturel. Le ministère estime aussi que ces consultations aideront Ottawa à saisir les occasions de contribuer à l'innovation et à la croissance économique du Canada. Rappelons aussi que les Canadiens ont jusqu'au 25 novembre pour se prononcer sur le sujet en ligne. L'Association médicale canadienne a indiqué dans un communiqué que l'Association nationale des retraités fédéraux se joint à elle pour souligner le besoin d'insister sur les soins aux aînés dans le prochain accord sur la santé pour le Canada. Jean-Guy Soulière, président national de retraités fédéraux, a déclaré qu'il faut tenir compte des besoins de notre population vieillissante. Pour sa part, le Dr Gregor Avery, président de l'AMC, a dit qu'il faut adopter une approche de collaboration beaucoup plus intégrée et efficace que celle qui prévaut actuellement dans notre système de santé. Des tables rondes publiques auront lieu au cours des prochains jours dans les Maritimes, en Ontario, en Alberta, de même qu'en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Politique américaine, eh bien, nos voisins du Sud se rendent aux urnes aujourd'hui et ce après plus de 18 mois de campagne, parsemée de vives controverses par moment. Plus de 50 millions d'électeurs potentiels auront l'opportunité au cours des prochaines heures de se prononcer soit pour Hillary Clinton ou encore Donald Trump. Rappelons que plus de 40 millions de personnes ont déjà voté par anticipation. Les derniers sondages donnent l'ancienne secrétaire d'État gagnante pour la Maison-Blanche. Pour Donald Trump, des victoires en Floride, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, en Ohio, au Minnesota et au Nevada sont essentielles pour espérer atteindre le chiffre magique des 270 votes au collège électoral. Le CRTC a confirmé avoir pris des mesures pour permettre de mieux protéger la vie privée des Canadiens. Selon le Conseil, ces mesures vont réduire le nombre d'appels non sollicités et illicites ou appels indésirables. Les fournisseurs de services ont 180 jours pour communiquer au CRTC les détails concernant les services de filtrage qu'ils pourraient offrir à leurs clients. La ministre canadienne du Développement international et de la Francophonie a souligné l'attribution d'un financement de près de 5,5 millions de dollars à un réseau de recherche basé à l'Université de Sherbrooke au Québec. Il est à noter que le réseau cherche des solutions dans le but de moderniser l'intendance des lacs du Canada. Marie-Claude Bibeau a dit que ce réseau aidera à former la prochaine génération de jeunes chercheurs. Ce réseau regroupe 18 chercheurs de premier plan du Canada dans le domaine des systèmes d'eau. Au sport, au hockey, dans la Ligue nationale, victoire des Islanders de New York 4-2 contre Vancouver. Boston a blanchi Buffalo 4-0 et la Floride 3, Tampa Bay 1. Ce soir, Edmonton sera à Pittsburgh, Vancouver à New York contre les Rangers, Boston à Montréal, Dallas à Winnipeg, Ottawa à Nashville et Toronto recevra Los Angeles. Toujours au hockey, selon le Las Vegas Review Journal, le logo et le nom de la concession de Las Vegas seront dévoilés lors d'un événement le 22 novembre prochain au Toshiba Plaza. Le commissaire Gary Bettman a confirmé sa présence. NFL maintenant au match du lundi soir, victoire de Seattle 31-25 contre Buffalo. Et toujours au football, en terminant, les Alouettes de Montréal ont annoncé que le directeur général Jim Popp ne sera pas de retour l'an prochain. Pop met fin ainsi à une association de plus de 20 ans avec l'équipe montréalaise.
C'est 15 degrés actuellement au centre-ville de Victoria. Alexis Gagnon au micro. On vient tout juste d'entendre les bulletins quotidiens de Denis Lépine. Bienvenue dans l'émission Le Débrief. On va regarder la météo plus en détail. On a, comme je le disais, 15 degrés. C'est 14 du côté de l'aéroport de Victoria, à proximité de Sydney. Dans le port de Victoria, c'est 13 degrés. Ça s'ennuage au cours des prochaines heures. On aura 11 degrés en fin de soirée avec de la pluie. La pluie va débuter en fin de soirée. Pour demain, encore de la pluie, mercredi 9 novembre, 15 degrés au mercure. Ça se dégage en fin de journée, ça descend jusqu'à 9 pour la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi 10 novembre, 13 degrés nuageux. Vendredi 11 novembre, 14 degrés avec de la pluie. Et pour ce qu'on peut distinguer du week-end à ce moment-ci, à quelques jours du week-end, on aura de la pluie, 13 degrés samedi et 12 degrés dimanche. Ça pourrait changer. Les probabilités d'averses sont encore assez minces, donc on a 30% pour samedi et 40% pour dimanche. Et je répète que pour vendredi, jour du souvenir, on aura 14 degrés avec de la pluie. On s'en va tout de suite au bulletin des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles du jour. À tout de suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour cette nouvelle édition du journal de la radio des Nations Unies. Avec en titre l'attaque à Goma à l'est de la RDC contre une trentaine de casques bleus de la mission de l'ONU. L'OIM qui dénonce les conditions de détention des migrants en Libye. Le lancement officiel d'une vaste campagne de vaccination contre le choléra en Haïti. Et puis dans le dossier, nous ferons le point avec l'OMS sur les efforts humanitaires dans la ville irakienne de Mossoul. Une explosion a donc frappé ce mardi la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, tuant une fillette de 8 ans et blessant plus d'une trentaine de casques bleus de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays. Des enquêteurs ont travaillé pendant plus de 4 heures sur les lieux de l'incident pour collecter les premiers indices de cette explosion. La correspondance sur place de Freddy Bikumbi de Radio Okapi.
L'explosion a eu lieu vers 6h15 du matin au quartier Kishiro à la périphérie ouest de Goma, à seulement 1 mètre de la nouvelle cathédrale en construction. Les éléments du contingent indien de la MONUSCO faisaient leur jogging matinal habituel quand ils ont été surpris par l'explosion. 31 casques bleus et un civil ont été blessés alors qu'une fillette a été tuée. Des blessés, dont le plus grave, au moins 14, sont actuellement soignés à l'hôpital niveau 3 de la MONUSCO. Pour l'instant, il est difficile de déterminer la nature de l'engin utilisé, mais les enquêteurs de l'unité antimine fonctionnaires des Nations Unies UNMAS, ceux des FRDC et de la police qui ont travaillé pendant plusieurs heures sur la scène du crime ont retrouvé des projectiles tels que des clous, des fragments de métaux, des vis et des morceaux de bidons en plastique brûlé. Ce qui pousse à croire, d'après quelques indiscrétions, qu'il s'agit probablement d'une bombe artisanale. Pour l'instant, les représentants de la MONUSCO à Goma soulignent qu'il faut attendre les résultats du travail des enquêteurs avant toute déclaration. Goma, Freddy Bikumbi, Radio Okapi.
Afrique toujours, l'afflux des migrants et des réfugiés via la Méditerranée ne faiblit pas. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, près de 340 000 migrants et réfugiés sont entrés en Europe par la mer en 2016, principalement en Grèce et en Italie. Si près de 4 000 migrants et réfugiés ont été sauvés, plus de 4 200 personnes sont décédées en tentant la traversée de la Méditerranée. Les migrants continuent toujours d'affluer de la Libye où l'OIM dénonce les conditions de vie difficiles dans les centres de détention. Alpha Diallo.
Ce sont des informations qui témoignent des difficiles conditions de vie et de l'inadéquation de la situation médicale dans les centres de détention de migrants en Libye. L'Organisation internationale pour les migrations souligne que le dimanche 6 novembre dernier, un migrant a été retrouvé sans vie au centre de détention de Garian al-Amra, à 90 km au sud de Tripoli. L'OIM, qui ne donne pas les circonstances exactes de ce décès, note qu'il s'agit du quatrième en l'espace de 3 semaines. Ce dernier cas a été découvert à la suite d'une banale évaluation médicale pour s'inquiéter de la situation des 1800 réfugiés dans ces centres de détention. Lorsque migrant gravement malade a été découvert, les responsables du centre ont immédiatement transféré le patient à la clinique d'Erevan où il est finalement décédé. Face à cette situation, l'OIM et les autorités libyennes se sont penchées sur le traitement de la gale dans ces centres de détention pour migrants. Parmi les autres mesures d'urgence figurent la désinfection des aires de vie, la distribution de vêtements et de couvertures d'hiver. Par ailleurs, l'OIM s'est inquiété du sort de 300 enfants non accompagnés, également retenus dans un autre centre de détention en Libye. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
Changement de continent, le ministère de la Santé d'Haïti, appuyé par l'Organisation panaméricaine de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF et d'autres partenaires, lance aujourd'hui une campagne de vaccination contre le choléra au profit de 820 000 personnes. Les localités visées sont celles des départements du Sud et de la Grande Anse, les plus touchés par l'ouragan Matthew qui a frappé le pays début octobre. Mais comme le souligne le docteur Jean-Luc Poncelet, représentant de l'OMS et de l'Organisation panaméricaine de la Santé en Haïti, le vaccin seul ne suffit pas à prévenir la maladie. On l'écoute.
Le grand problème, c'est qu'il faut bien informer la population que c'est un vaccin qui a une efficacité, qui a un impact, mais il doit absolument être accompagné d'hygiène. Il faut que les gens se lavent les mains, il faut que les gens aient de l'eau propre, il faut que les gens traitent de l'eau à domicile avec du chlore. C'est extrêmement important que les deux mesures doivent être prises ensemble. Le vaccin tout seul n'est pas suffisant. C'est une bonne mesure, un outil très très important, mais il faut absolument qu'il soit accompagné d'autres mesures pour assurer que l'épidémie soit enrayée en Haïti.
Enfin, détour par la COP22, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui a démarré lundi au Maroc, où Laurence Toubiana, championne pour l'action climatique et ambassadrice française pour la lutte contre le changement climatique, est intervenue ce mardi. Lors d'une conférence de presse consacrée au lancement d'un programme d'action pour mobiliser les acteurs non étatiques, Laurence Toubiana a notamment déclaré que ces derniers, qu'il s'agisse des entreprises, des villes ou des organisations non gouvernementales, ont un rôle crucial à jouer pour mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Elle a aussi mis l'accent sur le lien entre la lutte contre le changement climatique et le programme de développement durable à l'horizon 2030. On l'écoute.
Ça ne peut pas se passer sans être dans le climat, dans les objectifs de 2030, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, l'accès à la santé, les villes vivables et durables, les emplois, la transition vers des emplois justement dans les énergies propres. Tout ça est vraiment la même chose. On a maintenant un seul agenda de développement. Le climat fait partie de cet agenda de développement. Sans doute les négociations sur la mise en œuvre sont plus avancées dans le climat que dans d'autres domaines, mais tout ça est la même chose puisque au fond, ça se passe dans chaque pays sur le modèle de développement et la politique de développement qui est conduite. Donc il n'y a plus de deux choses séparées. Il y a un seul agenda que les gouvernements doivent mettre en œuvre et cet modèle de développement nouveau doit être vraiment soutenu par les citoyens, les entreprises, les secteurs financiers dans chaque pays et au plan international.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité. La situation dans les environs de Mossoul en Irak reste donc toujours tendue pour les populations civiles, forçant les humanitaires à rester sur le qui-vive, et ce même si le déplacement massif de plus de 2 millions de civils n'a pas encore eu lieu. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, indique avoir fourni une vingtaine d'ambulances et une quarantaine de cliniques médicales mobiles depuis le début de la crise. La priorité pour l'agence onusienne est de fournir du matériel médical aux localités qui sont aux avant-postes des combats. Au micro d'Alpha Diallo, Tariq Jazarevitch, porte-parole de l'OMS à Genève, explique la situation sur place.
On sait que donc la population continue de quitter les zones de combat. L'Organisation mondiale de la santé essaie avec ses partenaires de mettre en place les systèmes pour assurer les services de santé à des gens donc qui fuient les combats. On le fait à travers les équipes mobiles médicales qui se déplacent dans les zones qui sont accessibles maintenant. On essaie aussi de renforcer la capacité des hôpitaux de référence, notamment un hôpital à Erbil qui reçoit les blessés des zones de combat autour de Mossoul.
Par rapport à cet hôpital d'Erbil, quels sont les types de blessés que vous recevez là-bas?
Aujourd'hui, on fournit à cet hôpital à Erbil des médicaments et du matériel sanitaire pour 100 000 personnes. Ça comprend aussi le matériel chirurgical pour traiter effectivement tous ces blessés. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que depuis 17 octobre, ils ont eu 29 blessés, soit par des armes à feu ou par des explosions. Donc effectivement, ils doivent être prêts à recevoir plus de gens au fur et à mesure que les opérations continuent.
Est-ce qu'ils reçoivent aussi des blessés ou des malades à cause de l'incendie des puits de pétrole qui crée une atmosphère et une pollution énorme?
La plupart des gens qui sont vus par les équipes médicales mobiles autour de Mossoul, effectivement, sont les gens qui ont des problèmes de respiration, parce qu'ils se trouvent dans la zone où il y a donc des puits de pétrole qui sont en feu depuis des mois. Donc 1400 personnes se sont présentées aux équipes médicales dans la région autour de Mossoul pour donc être soignées à cause des problèmes d'asphyxie dus à des puits de pétrole, mais aussi dus à un feu qui s'est propagé dans une usine et d'où sortaient donc les fumées du sulfure. Donc c'est quelque chose aussi qu'on essaye de travailler avec les travailleurs médicaux sur place pour essayer d'apporter une assistance à ces gens-là. Pour le moment, on n'a pas eu de décès dû à ça, mais c'est très important de continuer à suivre la situation et à apporter de l'assistance à des personnes qui peuvent être exposées à ces fumées.
Est-ce que l'OMS et les autorités irakiennes ont déployé des cliniques mobiles autour et aux environs de Mossoul au cas où la situation humanitaire se détériore davantage?
Actuellement, donc, on a 11 équipes médicales qui sont opérationnels dans le gouvernorat de Nineveh autour de Mossoul. Au total, nous avons donné 19 ambulances et 41 équipes médicales qui donc travaillent dans les zones à combat. On attend aussi l'arrivée de 10 ambulances de plus ainsi que 10 cliniques mobiles de plus qui vont être déployées dans les jours qui suivent.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies, à retrouver sur l'Internet et sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Merci de s'intoniser le 107,9 FM à Victoria. Vous écoutez le débrief en direct à 16h17 ou encore en rediffusion dans la matinée du mercredi 9 novembre. On va passer à présent aux nouvelles provinciales. Un mot sur la météo pour commencer ce bloc provincial. Des températures records ont été constatées dans le sud de la province de Colombie-Britannique. On avait déjà brisé un record ce matin très tôt. Des températures donc records avec l'arrivée d'une dépression en provenance d'Hawaï. Une dépression qui apporte du temps doux et humide pour la côte sud de Colombie-Britannique. Alors on a eu une journée effectivement estivale ici à Victoria et du côté de Vancouver. On rapporte que le record de chaleur de 14,8 degrés Celsius datant de 1991 a été battu en début de journée à l'aéroport de Vancouver. Toujours à propos des conditions météorologiques, je vous signale une dépêche de la presse canadienne sur les pluies abondantes récentes. On a reçu beaucoup de pluie ici à Victoria au courant du mois d'octobre, mais d'autres régions de l'île de Vancouver en ont reçu encore davantage, y compris dans les derniers jours. Il y a présentement un avis d'évacuation dans la région de Port Alberni. Je vous rapporte en substance le contenu d'une dépêche de la presse canadienne. Donc la Première Nation Tsechat du côté de Port Alberni, oui, donc dans la région centre de l'île de Vancouver, indique que la rivière de Somas est a atteint un niveau qui menace les résidents des environs. Donc le lit de la rivière est très élevé, le niveau atteint la route. La route numéro 4 qui fait la liaison entre Port Alberni et Tofino. Donc un avis d'évacuation est émis par les autorités et des pancartes ont été placées sur la route qui fait la liaison Port Alberni jusqu'à Tofino. Il se peut que la route soit bloquée ou partiellement bloquée avec une seule voie. Ça reste à voir. En tout cas, Environnement Canada annonce de nouvelles précipitations. On parle de 60 mm de pluie qui sont prévues dans la région. Ça rappelle à de nombreux résidents l'inondation qui avait eu lieu en 2014 à Port Alberni. Donc on va bien sûr suivre ce dossier et souhaiter que l'inondation n'ait pas lieu du côté de la rivière Somas. Autrement, fait divers important à signaler, il y a eu une saisie considérable de cocaïne à la frontière récemment. C'est rapporté par le Vancouver Sun. On rapporte dans les pages du Vancouver Sun une saisie de plus de 100 kilos de cocaïne sur le Pacific Highway qui relie donc Vancouver à l'État de Washington. L'Agence des services frontaliers du Canada a déclaré que la cocaïne avait été saisi le 21 octobre dernier. C'est dans un camion que les agents ont découvert la drogue et le conducteur, bien sûr, est détenu. Il a été arrêté. Les sacs de cocaïne avaient été dissimulés dans un chargement de riz. Donc, vous trouverez cette nouvelle dans le Vancouver Sun et dans d'autres médias, bien sûr. C'est un fait divers donc qui a été rapporté aujourd'hui. Autrement, une nouvelle sur la surenchère immobilière en Colombie-Britannique, puisqu'il faut en faire mention au moins une fois par semaine dans le débrief. C'est un sujet qui demeure d'actualité. On sait que la province de Colombie-Britannique a introduit une taxe sur l'achat de biens immobiliers dans la région de Vancouver par des étrangers. Le niveau de cette taxe s'élève à 15%. Ça l'a modifié un petit peu la donne, mais les prix sont restés assez stables. Le commerce, toutefois, s'est calmé. Donc, on sait avoir les effets de cette taxe qui vise les acheteurs internationaux ne sont pas encore entièrement concluants ni connu. Et cette nouvelle, donc, c'est plutôt un clin d'œil, une nouvelle insolite un petit peu qui se rapporte à la surenchère immobilière. Oui, on apprend qu'un condo est à vendre à Vancouver pour la modique somme de 59 millions de dollars. C'est l'immeuble, c'est le condominium le plus cher au Canada, il va sans dire. Alors, c'est un condo de 8000 pieds carrés offrant une vue panoramique de Vancouver. 4 chambres à coucher, 5 salles de bain, un garage pour les véhicules qui peut accueillir jusqu'à 7 voitures. Donc voilà, c'est le nouveau record. C'est une propriété qui avait été achetée en 2014 par un homme d'affaires qui est à la tête d'une compagnie à numéro Anh Ban Wang. Il avait acheté ce condo pour le prix de 16,6 millions de dollars, ce qui était en deçà du prix du marché. Alors, s'il réussit à vendre le condo au prix demandé de 59 millions, il aura réalisé un gain très important. Donc, c'est ce genre de nouvelles qu'on voit passer ces derniers temps, depuis plusieurs mois, disons quelques années même, du côté de Vancouver, alors que les prix de l'immobilier atteignent des sommets stratosphériques. Autrement, je vous signale une découverte, ou plutôt un développement encourageant dans la science et en médecine, dont les auteurs sont en partie de la Colombie-Britannique et de l'Université de Colombie-Britannique, aussi connue sous le nom de UBC. Dans le blog de Mediapart, sous la plume de Jean-Paul Basquiat aujourd'hui, il y a un article fort intéressant sur la résistance aux antibiotiques. C'est un problème croissant. L'OMS est très inquiète à ce sujet. On en a parlé dans la grille CILS FM 107,9, spécifiquement dans l'émission Sport et Santé Magazine, de cette résistance aux antibiotiques qui cause bien des soucis aux autorités sanitaires partout dans le monde. Alors, Jean-Paul Basquiat, dans ce blog, indique qu'une équipe qui est partiellement, en partie composée de chercheurs de UBC, a annoncé une nouvelle génération d'antibiotiques qui donne beaucoup d'espoir à ceux qui croyaient qu'on avait atteint la fin des antibiotiques et qu'on ne pouvait plus dégager de nouveaux produits face à la résistance aux antibiotiques et à la résistance pénicillo-résistante, donc la résistance à la pénicilline. Donc voilà en substance, découverte importante par des chercheurs de UBC, de nouveaux antibiotiques en vue, c'est le titre d'un article dans le portail Mediapart.fr. C'est le blog de Jean-Paul Basquiat, si ça vous intéresse. C'est un article de fond très technique sur ces découvertes. Autrement, je termine ce bloc provincial avec une annonce de WestJet qui a révélé aujourd'hui qu'elle rétablira la liaison entre Vancouver et Hamilton en Ontario. C'est une liaison qui avait été interrompue, mais la compagnie dit avoir reçu de nombreux appels de voyageurs, de résidents de Hamilton et de Vancouver, lui demandant de rétablir cette liaison régulière entre Vancouver et Hamilton, à proximité de Toronto. Donc WestJet, bien sûr, qui offre des vols à rabais, ça pourra intéresser des gens qui ont besoin de retourner dans l'est du pays pour visiter leur famille ou pour affaires. WestJet annonce que la liaison Vancouver-Hamilton sera rétablie en juin 2017 et durant l'été, il y aura jusqu'à 4 vols par semaine. Et la liaison se poursuivra, mais à moins grande fréquence durant les mois d'automne et d'hiver. On va faire une petite pause musicale. À présent, je vous propose d'entendre le groupe Françaisquois Pontex qui nous chante une pièce intitulée Béa. Et je vous mentionne entre parenthèses qu'on va reparler de Pontex un petit peu plus tard dans la revue des éditoriaux. À tout de suite.
Lentement, plus j'avance, plus je suis en suspens. Comment faire face forwarder le slow motion? Ma pendule est arrêtée. Ah,
la formation Pontex dans le débrief à 16h30. Vous écoutez CILS FM 107,9. Merci également de nous écouter en rediffusion dans la matinée du 9 novembre. On a actuellement 13 degrés au centre-ville. Le mercure a encore descendu de 2 degrés. Alors le soleil qui se couche rend un petit peu la température un peu plus fraîche. On va passer aux nouvelles du jour. Je vous signale tout de suite une nouvelle qui concerne le secteur énergétique. Un article que j'ai remarqué pour vous, que j'ai repéré pour vous dans le journal La Presse. La Presse nous signale que le gouvernement Trudeau a nommé une défenseure de l'industrie du pipeline sur le comité chargé de la modernisation de l'Office national de l'énergie. Un geste qui risque de faire sourciller quelques observateurs. Brenda Kenny, c'est le nom de cette membre de l'industrie, a déjà confié en entrevue qu'elle regrettait de ne pas avoir assisté à la construction de nouveaux pipelines alors qu'elle était présidente de l'Association canadienne de pipelines d'énergie. Le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé mardi la composition de son comité d'experts qui a pour mission de revoir de fond en comble le fonctionnement de l'organisme qui réglemente l'énergie au pays et donne son aval à la construction d'oléoducs. Parmi ces experts, on compte Brenda Kenny, on vient de la nommer. Donc, cette dame a occupé de 2008 à 2016 le poste de présidente et chef de la direction de l'Association canadienne de pipeline d'énergie. L'ACPE. Lors d'une interview accordée à la CBC pour souligner la fin de son mandat en janvier dernier, au début de l'année 2016, elle n'avait pas caché son parti pris en faveur de la construction de nouveaux oléoducs. Alors la question qu'on peut se poser, bien sûr, est-elle en mesure de se pencher avec objectivité sur les projets conçus par l'industrie pétrolière? La question se pose. Parmi les autres experts nommés mardi dit par Ottawa, on note Hélène Lauzon du Conseil patronal de l'environnement du Québec, Gary Merasty, ancien député libéral issu de la nation Cree, David Bessner de l'Institut de l'énergie du Nouveau-Brunswick et Wendy Grant John, ancienne chef de la bande Musqueam. Donc aucun environnementaliste, aucun scientifique dans ce comité. Alors effectivement, c'est une nouvelle qui fera sourciller certains observateurs du secteur de l'énergie. On parle de citoyenneté et plus spécifiquement de révocation de citoyenneté. La Cour fédérale a refusé une demande d'injonction. La Cour fédérale, rapporte La Presse canadienne aujourd'hui, a rejeté la demande de groupe de défense des droits des réfugiés qui souhaitait une injonction sur les révocations de citoyenneté d'immigrants soupçonnés d'avoir fait de fausses déclarations. Dans une décision rendue lundi, le juge Russell Zinn a refusé la demande d'ordonnance de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique et la demande de l'Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés et donné plutôt raison au gouvernement fédéral. La loi prévoit que quiconque ayant acquis la citoyenneté canadienne par fraude, fausse déclaration ou dissimulation de faits essentiels peut être privé de cette citoyenneté et par conséquent renvoyé dans son pays d'origine. Les deux associations contestent cette loi en cours car elle ne prévoit aucune procédure d'appel, notamment. Les deux associations demandaient une injonction sur l'ensemble des cas de révocation de citoyenneté le temps que l'affaire soit entendue par la Cour. Autre nouvelle aperçue sur la toile aujourd'hui, Maxime Bernier affûte ses armes pour le premier débat du Parti conservateur. Le député conservateur Maxime Bernier affûte ses armes en prévision du premier débat entre les candidats à la direction du Parti conservateur, débat qui aura lieu mercredi soir, donc demain soir à Saskatoon, en Saskatchewan. Maxime Bernier qui accuse d'hypocrisie ceux qui défendent le libre-échange tout en disant vouloir protéger la gestion de l'offre pour le lait, les œufs et la volaille. C'est un petit peu le nouveau cheval de bataille de Maxime Bernier, le démantèlement de la gestion de l'offre. C'est un virage à 180 degrés, faut-il signaler, puisqu'il avait défendu ce système système alors qu'il était ministre de la petite entreprise dans le cabinet Harper il y a quelques années. Et je termine ce bloc nouvelles du jour par un article qui porte sur l'élection américaine qui aura lieu dont on connaîtra les résultats en fin de soirée. C'est sur le portail indépendant The Intercept et ça évoque les manières par lesquelles le système électoral américain est truqué. Alors c'est très sérieux, c'est très bien argumenté, c'est étayé de faits, c'est sous la plume de John Schwartz dans le média indépendant The Intercept. Je vous donne le titre « Nine ways the US voting system is rigged ». Alors je vous encourage à faire cette lecture. En attendant, on va se tourner en musique, une petite pause musicale pour reprendre notre souffle. On se retrouve dans quelques minutes après cette pièce des Chiens de Ruelle, un morceau qui s'intitule « C'est pas prêt de changer ». À tout de suite.
C'est un shitload de linge massieux, c'est pas des squatter, pas qu'on peut marcher sur gazon. C'est pas des lames moraux sans service d'éviction. C'est vrai, tout le monde se réveille, pour que mon Dieu se réveille. Toi, les yeux de bouille, quoi, ça change rien pareil. Ça prend tout ça de monde pour faire un mot. C'est difficile de rester dans sa zone, c'est difficile de céder ces mêmes sons. Quand tu parles de social, économie de zone, mais c'est pas prêt de changer. Les gens tellement enfoncés, foncés dans la marche jusqu'au cou, avec aucune hésitation. Quand je sais, c'est pas tout ça de monde par un monde. Ça parlait pas gâcher les hippies et des fausses blondes. Ça parlait douche, mais pas trop. Ça parlait toxico qui clôt dans le casino. Ça parlait du monde creux, ça parlait du monde rêve. Tellement que dans le pis, c'est décidé de faire avec. Ça parlait du monde soft, ça parlait du monde sexe. Ça parlait du monde top, ça parlait du bon sexe. Mais pas que n'importe qui, pour pas pogner n'importe quoi. Mais gros, si tu veux avoir mon avis, on est pas fait pour se retrouver avec ce même goût. Les murs sont promesses, mais ils sont plus bigresses. On est pas fait pour s'endurer par la fessée à pince. Mais c'est pas prêt de changer. Désolé, mais déjà tellement avancé. Foncé dans la marche jusqu'au cou, avec aucune style d'intention de remonter. C'est pas prêt de changer. Désolé, on devrait être se mettre à l'avenir. Presque goûter le doux, puis j'en télé. La société pour voir son face, c'est une coupe d'année.
C'est pas prêt de changer dans le débrief à 16h38. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9, votre station communautaire francophone locale. On va passer à la revue de presse des éditoriaux et on parle plutôt, on évoque plutôt un papier paru dans le journal Le Devoir. C'est davantage une critique musicale, mais c'est aussi un billet sur la musique francophone hors Québec. Et je tenais à vous en faire part. Il est question dans ce papier de la formation Pontex dont on a entendu une chanson un petit peu plus tôt dans l'émission. Et c'est un papier très élogieux sur Pontex qu'on avait d'ailleurs reçu ici à CILS FM lors de leur passage à Victoria en avril dernier. Donc c'est un texte du Devoir signé Philippe Renaud à propos de Pontex. Il écrit « Découvert lors de la dernière édition des Francs ouvertes, Pontex, un groupe francescois, a bien tiré son épingle du jeu en atteignant les demi-finales du concours. La proposition avait à la fois quelque chose de familier, un rock songé héritier de Carquois et Radiohead, deux influences majeure du groupe, mais aussi un rock richement articulé par un trio de musiciens très doués. Structure rythmique complexe, guitare saillante, nuances dans les orchestrations. Donc un papier très élogieux sur Pontex, un groupe qui est en ascension, qui connaît un grand succès critique et de plus en plus un succès public aussi. Donc c'est un groupe de Saskatchewan des jeunes francophones de Saskatchewan qui s'expriment avec beaucoup de talent et qui apportent un son très rafraîchissant, très complexe, comme le dit l'auteur Philippe Renaud. C'est des constructions très sophistiquées, presque virtuoses, je dirais. Donc Pontex, on écoutait un petit peu plus tôt la pièce BA, et ça tourne assez fréquemment sur les ondes de CILS FM. Je voulais donc vous signaler ce texte, et on va manquer de temps. Malheureusement, le sablier de l'émission touche s'est épuisé, mais je voulais vous rapporter la réaction d'Équiterre. Équiterre, c'est un groupe environnementaliste qui a réagi rapidement au plan de protection des océans annoncé par le gouvernement Trudeau en début de semaine, un plan de plus de 1 milliard de dollars. Donc Équiterre, ce groupe environnemental, fait écho à peu près à toutes les organisations environnementales du pays en déclarant se réjouir que le gouvernement Trudeau s'intéresse à la protection des zones côtières. Mais bien sûr, l'organisme avertit qu'un plan de protection des mammifères marins doit être établi avant l'approbation de tout projet de pipeline. Alors c'est on applaudit, oui, mais en tout temps demeurant vigilant. Vous trouverez la réaction d'Équiterre sur le site d'Équiterre. C'est très bien argumenté, et c'est il y a plusieurs déclarations, il y a du verbatim du directeur principal d'Équiterre, Stephen Guilbeault, dans ce communiqué. Donc très informatif. On va se rendre à l'interview dans quelques instants. Je vous le disais en intro d'émission, on a aujourd'hui le plaisir de retrouver Nathalie Leduc, qui est une régulière du débrief. On la retrouve pour toutes sortes de sujets. Elle a parlé de ses voyages, elle nous parle aussi souvent de ses lectures, et c'est le cas aujourd'hui. On va parler d'un livre culte qui s'intitule « Even Cowgirls Get the Blues ». C'est dans un instant à l'antenne de CILS FM. À tout de suite. Vous êtes à l'écoute de CILS FM 107,9 à Victoria. C'est le moment de passer à l'interview du jour, et le sujet d'aujourd'hui s'écarte un petit peu de l'actualité. C'est le retour de la chronique littéraire avec Nathalie Leduc. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors Nathalie, bien connue des auditeurs, artiste résident à Victoria. On parle de littérature, de festival, de culture occasionnellement à l'antenne dans l'émission Le Débrief. Aujourd'hui, on parle d'un livre qui est un classique en quelque sorte.
Oui, on parle de Even Cowgirls Get the Blues de Tom Robbins.
Ce titre évoque tout de suite peut-être des choses à nos auditeurs. C'est un titre qui est vraiment resté célèbre. C'est un de ces romans américains qui a fait date. On sait qu'il a été adapté au cinéma, on en touchera un mot un petit peu plus tard. Mm-hmm. Donc ce livre a été publié dans les années 70. Il a vraiment marqué les esprits, n'est-ce pas?
Je pense que oui. Oui, quand j'étais aux États-Unis, beaucoup de monde en fait m'ont dit, il faudrait que tu lises ce livre. Souvent, on me disait de le lire, et puis finalement, ça y est, quelques années après, je l'ai lu.
Est-ce que c'est parce que ta personnalité leur rappelait celle d'un personnage de ce livre?
Oui, un peu, même, je sais pas si c'est un, je crois pas que ce soit un personnage en particulier. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de ludique dans ce, mm-hmm. dans ce livre et dans les autres livres de Tom Robbins. On me disait aussi de lire les autres.
Donc, d'accord.
C'est pas
alors
le
on
seul,
va commencer par.
C'est pas le seul qu'on me disait de lire, là. Ouais. Mais oui, il y a un style très vivant, mm-hmm. très imagé. Il y a des personnages assez drôles. Mm-hmm. Donc je pense que c'est pour ça qu'on me disait aussi de le lire. Ouais.
Donc ça s'intitule Even Cowgirls Get the Blues.
Oui.
C'est un livre qui a été écrit par Tom Robbins, tu le disais, ça a été publié en 1976.
Oui.
Et est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que les gens ont eu raison de te le conseiller?
Oui, mais j'ai eu le malheur de lire d'autres livres de Tom Robbins avant.
Ah, c'est un grand malheur ou quoi?
Ben, je dirais pas un grand malheur, mais parce que j'ai un peu préféré d'autres livres que j'ai lus avant. Mais oui. Celui-là était très bien aussi. Et comme dans les, comme dans ses autres livres aussi, il y a un mélange entre un discours sur l'art et un discours sur les mythologies ou les religions. Et dans celui-là, il y a un petit peu de politique aussi. Il y a une espèce de parodie ou de il essaye d'égratigner un peu certains aspects de la politique. Mais c'est un peu moins, on le perçoit un peu moins dans ce livre que dans d'autres.
D'accord.
D'autres de ses livres, oui.
D'accord. Mm-hmm. Alors, pourquoi est-ce que ce livre-là est vraiment celui qui est le plus célèbre dans l'œuvre de Tom Robbins?
C'est son premier.
Donc, c'est son tout premier,
c'est son tout
oui.
premier livre. Donc,
c'est celui qui l'a révélé.
C'est celui, oui, celui. Oui, c'est exactement ça.
D'accord. Alors, c'est quoi l'histoire, Nathalie?
Mais c'est l'histoire de Cissy Henshaw qui naît avec des pouces un peu spéciaux. C'est des pouces surdimensionnés. En fait, on voit un petit peu au début, on parle de son enfance, comment elle grandit et tout ça, et ce qu'elle décide de faire pour pallier à ses pouces, en fait.
Donc, est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est un peu des deux? Ça lui donne des...
En fait, ce qui arrive, c'est que quand elle est petite, les gens autour d'elle commencent à voir ça comme un handicap. Il y en a qui se moquent d'elle, et puis il y en a aussi qui ont un peu pitié d'elle. Ils essayent de voir comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème. Ils vont même voir un docteur pour voir si c'est possible de faire une opération pour lui changer les pouces, etc. Mais elle, dans sa tête, quand elle a à peu près 12 ans, elle essaye de voir vraiment le côté positif de ses pouces. Et puis, elle décide qu'elle allait commencer à faire du pouce, justement. Et à se déplacer avec ce moyen de transport, grâce à ce moyen de transport, grâce à ses pouces.
La traduction française est excellente. Donc, elle a des grands pouces, elle fait du pouce.
Oui.
Alors qu'en anglais, elle a des grands pouces, elle fait du hitchhiking. Ou en France, elle ferait de l'autostop. Alors, c'est un film parfait pour le français, québécois, canadien.
Oui.
Et donc... C'est à l'âge de 12 ans qu'elle décide de faire du pouce.
Oui, elle fait du pouce, mais au début, elle fait du pouce seulement à l'endroit où elle habite, dans la ville où elle habite, à Richmond.
OK.
Et donc, pour se déplacer, pour aller partout, elle fait toujours du pouce. Elle commence à faire du pouce. Puis plus tard, quand elle est à la fin de son adolescence, elle part de chez elle en faisant du pouce, puis elle se déplace partout, d'un côté à l'autre du pays. Ça devient vraiment son mode de vie, son mode d'expression même, comme on pourrait faire de la musique ou faire avoir un travail, etc. Elle, c'est son mode de vie, c'est ce qu'elle fait, et ça lui donne du pouvoir aussi. Ses pouces ont beaucoup de pouvoir. Elle apprend à reconnaître les voitures, elle apprend c'est tout un monde qu'elle développe, un monde de connaissances à partir de ses pouces.
Ouais. Est-ce que c'est écrit à la première personne?
Non, c'est écrit à la troisième
personne. À la troisième personne.
Ouais. Sauf que il y a à un moment donné l'incursion de l'auteur. De temps en temps, l'auteur parle au lecteur.
Ouais.
Et il y a même un personnage qui s'appelle Dr. Robbins qui apparaît dans l'œuvre. Et puis c'est effectivement l'auteur qui se donne un personnage. Il est psychiatre dans le livre.
Okay. Une
mise en abîme assez intéressante. Puis il se décrit lui, mais son personnage est un peu fou, tu sais, à un moment donné. Il est psychiatre, mais il est un petit peu fou aussi.
C'est très américain, quelque part. Moi, je pense à Mark Twain, à Huckleberry Finn, à Tom Sawyer. J'ai l'impression d'une... Je savais pas que c'était une... Ça commençait dans l'enfance du personnage, donc...
Oui, ça commence dans l'enfance du personnage, mais ce qui est surtout développé, c'est à partir du moment où elle s'en va.
Oui.
Et puis,
oui. Eh ben, elle connaît forcément des mésaventures. Faire du pouce comme ouais. ça, c'est pas forcément.
Mais
elle est
quand même assez forte elle-même. Oui. Puis elle se laisse pas faire là. Tu sais, si elle est dans des situations un peu dangereuses, je pense qu'elle sait comment réagir. Là. Et puis plus tard, vers la fin,